Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment des citoyens peuvent-ils, en se mobilisant, changer le destin d'un milieu naturel menacé de disparition? Un cas pratique illustre bien cette question, celui des marais salants de la presqu'île guérandaise. Dans les années 70, face à un ambitieux projet d'aménagement du territoire, des défenseurs de la nature se sont mobilisés pour préserver ce précieux patrimoine de Loire-Atlantique. Nous évoquerons ce combat dans quelques minutes avec Gilda Buran, historien et ancien directeur du musée des marais salants de Basse-sur-Mer. Mais avant, direction le marais salant de la presqu'île guérandaise, à la rencontre à la fois de ceux qui ont mené la lutte de sa préservation et des acteurs d'aujourd'hui qui le font vivre au quotidien. C'est un reportage signé Michel Sourget, d'Alternante FM, votre radio associative, dans les pays de Nantes et de Saint-Nazaire.
Tout ce que j'ai fait pendant ces années-là, ça n'a jamais été quelque chose de calculé. C'était de l'improvisation pour réagir à mon environnement. Voilà, on fait ce qu'on pense devoir faire quand quelque chose se passe. Je suis arrivé, moi, dans cette région. Je ne la connaissais pas du tout. J'avais d'abord grandi dans le Morbihan, puis à Saint-Nazaire, puisque mon père était chaudronnier au chantier. Et quand j'ai quitté Saint-Nazaire après le lycée, je suis allé au Mans, à Caen, pour poursuivre des études. À partir de 68, je fais de la socio et de la psycho, mais à Nantes. Et pour payer mes études, j'ai eu un poste de pion au lycée de la Baule. Et là, j'ai découvert qu'il existait des marais salants à Guérande. J'ai découvert ça tardivement, je ne connaissais personne ici. Et c'est dans des actions militantes et en faisant du théâtre que j'ai découvert, non pas seulement les problèmes qui existaient ici, mais que j'ai découvert qu'il était possible de faire bouger les choses.
Comment on arrive à s'installer ?
Voilà, alors comment ? D'abord, je ne cherchais pas du tout à m'installer ici. J'étais pion, je ne savais pas où j'irais après. Et c'est en faisant du théâtre, la pièce de théâtre Presqu'île à vendre, que j'ai déplacé mon travail de militant anti-aménagement du territoire qui se passait ici, producteur de sel, puisque c'est là, après l'écriture de la pièce de théâtre, qu'on m'a proposé, de, un peu pour me titiller, de récolter du sel, parce que j'en parlais, ça serait bien d'essayer. Et là, par contre, ça a été un choix de vie après. C'est-à-dire que j'ai dit, ok, je cesse de me faire un avenir de je ne savais pas quoi encore. Donc j'ai fait du sel un an, et ça m'a tellement plu que j'en ai fait pendant 50 ans.
À l'origine, c'était pour s'opposer à la construction d'une rocade.
Oui, complètement. La rocade, c'est l'image symbolique d'un projet, c'est un morceau d'un projet. Mais il y avait un véritable plan d'aménagement dont la rocade n'était qu'un facteur, grosso modo. Mais le plan d'aménagement prévoyait effectivement la quasi-disparition des marais salants, prévoyait des constructions très luxueuses dans les marais avec des canaux, etc. Et puis des tours sur le coteau de Guérande en forme de cité touristique qui était prévue ici. Et c'était pas du tout un fantasme. Les plans sont réels, écrits, et ils étaient financés par des sociétés financières.
Si aujourd'hui vous pouvez relever vos plats avec du sel de Guérande, c'est grâce à la détermination de ces femmes et de ces hommes qui ont œuvré pour la préservation d'un paysage unique, d'un savoir-faire ancestral et d'une culture vivante. Mais c'est aussi parce qu'ils ont su aller plus loin en créant une formation professionnelle, une coopérative au service de toute une filière et en élaborant une stratégie commerciale en accord avec leurs convictions. Julien Manot, directeur de l'EFEA, l'école de formation par l'expérience en agriculture.
Le centre de formation est là pour en fait aboutir à un diplôme qu'on appelle un BPREA saliculture, donc un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, qui emmène à devenir en fait chef d'entreprise. C'est une formation qui dure 11 mois, donc de mi-novembre jusqu'à octobre. On essaie à ce que les stagiaires en fait rencontrent toute la périodicité des travaux, en tout cas du marais jusqu'à la récolte. Et entre-temps, on essaie pendant la formation, sur les périodes hiver, période la plus calme du marais, en fait, de voir toute la partie territoire, commercialisation, juridique, fiscalité, compta gestion. Donc là, on est jusqu'à les périodes de janvier-février. Et après, on commence la technique à partir de là où ils vont préparer leur marais. Alors après, ce qui est spécifique ensuite à la formation, c'est que les stagiaires ont la possibilité d'avoir leur propre saline de stage. C'est une micro-saline où ils vont pouvoir apprendre la pédagogie, s'exercer et surtout produire leur propre sel aussi. Donc ça, c'est un intérêt qui est assez important, hein, enfin, qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent déjà la main à la pâte, ils vont produire leur propre sel, donc il y a un enthousiasme au bout, une satisfaction qui est hyper intéressante pour les stagiaires. Et à la fin de la formation, la création de leur entreprise est très proche de la réalité, et l'année d'après, ils ont la possibilité de faire leur installation.
Lorsqu'ils sont sur le terrain, dans les salines, ils sont accompagnés d'un tuteur.
Pour devenir producteur de sel, la recette, c'est vraiment la formation et l'accompagnement. L'accompagnement, il se fait pendant la formation par des maîtres de stage et des tuteurs. La profession, elle est là aussi pour pérenniser le métier et vouloir transmettre. Et ensuite, même après la formation, ces personnes-là accompagnent toujours pendant l'installation et post-installation. C'est hyper important, c'est parce qu'on veut que la filière fonctionne et on veut que la personne qui s'installe aussi puisse vivre de son métier et surtout avoir un esprit serein, en tout cas dans son travail, qui est assez physique et très saisonnier en fonction de la périodicité de l'année, quoi.
En sauvant les marais salants de Guérande, ces défenseurs de la nature ont relancé une filière solidaire et durable. Celles-ci permettent aujourd'hui aux paludiers paludières de s'épanouir dans un environnement préservé tout en vivant confortablement de leur métier, prouvant que protection de la nature et valorisation des savoir-faire traditionnels vont de pair.
On est où ?
On est dans le marais de Guérande, au niveau des quatre routes, donc on est quasiment au centre du marais.
Pierre Cotet, néo-paludier, coopérateur.
En vrai, il y a combien de...
Sur l'herbe ?
Il y a 2000 hectares.
2000 hectares ? Ouais. Il y a plusieurs fonctionnements au marais, soit il y a les coopérateurs, après il y a des gens qui sont indépendants avec des grossistes, et après il y a des indépendants qui vendent que leur sel à eux. Je fais partie de la coopérative Le Guérandais. Nous, en coopérateur, on est 220. Ça représente quasiment la moitié des paludiers de Guérande, avec un modèle social qui est vraiment fondé sur les valeurs de la coopérative, donc l'entraide, et la mutualisation de l'outil en général.
Quel a été votre parcours ?
Alors moi, j'étais mécanicien à la mairie de Saint-Nazaire. J'ai fait 8 ans là-bas. J'ai fait 10 ans de mécanique, en fait. J'étais fonctionnaire. Et j'en avais un peu marre, enfin, ça n'allait pas en rapport avec mes valeurs, avec tout ce qui se passe avec le changement climatique. Je décrochais clairement avec mon boulot, je ne trouvais plus de sens. Alors que c'est un boulot qui est génial, hein, franchement. Réparer des bennes à ordures, réparer des gros camions qui consomment des quantités de carburant pas possibles. J'avais plus de sens, en fait. J'étais en mode la décroissance, enfin non, il y a autre chose à faire. Vu ce qui se passe, il faut faire autre chose. J'avoue que j'ai eu un moment un peu bas, j'ai des compétences techniques, mais dans une filière qui me plaît pas, en fait. Et c'est là qu'un copain m'a un peu forcé, entre guillemets, à m'intéresser au marais. Moi, ça me paraissait lunaire, en fait. Je connaissais le marais en tant que guérandais, mais j'avais aucun contact, je connaissais quasiment aucun paludier. J'avais aucune connaissance du métier. Sur un coup de tête, un jour, je lui dis, je viens t'aider à faire la fleur de sel. La saison commençait, il n'y avait pas de saisonnier, donc je viens t'aider à ramasser de la fleur de sel. Comme ça, c'est l'occasion de voir. Et je me dis, ok, bon, l'année prochaine, j'arrête la mairie, je viens bosser avec toi, tu me formes, quoi. Avant de faire la formation, avant de faire quoi que ce soit, je fais un an de pause, je vais faire de l'intérim, et comme ça, tu me formes quand j'ai du temps, et on voit. J'ai travaillé avec lui pendant un an, c'est devenu mon maître de stage presque sur l'année de formation ensuite. 3 ans ont passé, et là, je me suis installé cette année, et tout s'est fait au fur et à mesure. Beaucoup d'appréhension au début, parce que physiquement, je me demandais comment c'était possible d'avoir autant d'œillets, de physiquement faire autant de boulot. Tout est physique, on travaille tout à la pelle, on travaille tout avec nos bras et nos mains. Au début, c'était assez impressionnant, mais au fil du temps, au fil des rencontres, des conseils qu'on m'a donnés, des outils qu'on a, bah, ça s'est fait.
Vous chuterez de combien par rapport à votre salaire de fonctionnaire ?
Quand je serai officiellement installé, donc dans 2-3 ans, je gagnerai bien mieux ma vie qu'en étant fonctionnaire. J'ai une phase de, allez, on va dire 4 ans maximum où c'est un peu plus compliqué, sans non plus être à mourir de faim. Mais par rapport à la qualité de vie, qualité de travail et le bonheur, enfin, si on devait mettre un prix au bonheur, je suis bien plus gagnant, même pendant ces 3-4 prochaines années.
Sous l'impulsion de l'Association Universelle, l'expertise des paludiers paludières de Guérande s'est exportée à l'international en s'adaptant aux contextes culturels et environnementaux locaux. Gabriel Courroussé, président d'Universel, puis Abdel Forbes Diallo, partenaire bissau-guinéen, joint par téléphone.
Au début, c'est une rencontre un peu fortuite, c'est-à-dire qu'une amie d'un paludier qui est allée au Bénin, qui a rencontré des femmes productrices de sel, qui avaient une méthode totalement différente. De retour, elle a convaincu Alain Courtel, le fondateur de l'association, d'aller voir ce qui se passait là-bas au niveau de la production de sel. Il s'est dit que oui, il y avait possibilité de sans doute aider ces femmes à produire de manière plus facile, puisqu'elles avaient une méthode très pénible pour produire du sel. Actuellement, l'association est présente en Guinée-Bissau pour accompagner des producteurs de riz et des productrices de sel. Et puis au Sénégal, où là on intervient beaucoup moins sur la production, mais nous les aidons à s'organiser pour mieux valoriser leurs produits.
En Guinée-Bissau, le sel, elle est produite, on dit production indigène, c'est-à-dire la production traditionnelle. Avec des bois de chauffe, on fait du cuisson et puis à la fin de la journée, on ramasse le sel. Et avec l'intervention d'Universcell, les normes ont commencé à changer. On forme les femmes à produire en utilisant le soleil et le vent pour pouvoir produire du sel.
L'histoire contemporaine des marais salants de Guérande démontre qu'un engagement citoyen peut transformer une lutte locale en modèle durable et solidaire. En conjuguant écologie, transmission et coopération, ces femmes et ces hommes ont prouvé qu'un autre avenir agricole est possible.
Voilà, à l'instant, ce reportage à la découverte des acteurs passés et présents des marais salants de la presqu'île de Guérande. Alors, pour aller plus loin, prenons du recul sur ces luttes citoyennes des années 70 pour sauver ces marais. Quels ont été les ressorts de cette mobilisation populaire à l'époque ? Réponse avec Gilda Buran, historien et ancien directeur du musée des marais salants de Basse-sur-Mer. Entretien mené par Michel Sourget, d'Alternante FM, en Loire-Atlantique.
Ce qui a été extraordinaire pour moi, observateur, dans ces moments-là, c'est la manière dont les intellectuels, alors que je n'oppose pas du tout au monde paysan, mais les intellectuels universitaires à Nantes, ont apporté leur concours au monde paludier pour leur dire « Oui, en effet, ce n'est pas qu'un outil de travail, le marais salant, c'est un milieu extrêmement riche. Si ce milieu est détruit, est impacté par une marina, s'il est impacté par la trajectoire d'une quatre voies qui va désorganiser le système hydraulique, eh bien c'est ça et ça qu'on va perdre. » Et finalement, ça, dans les années 70, on n'avait pas encore conscience, comme on en a conscience aujourd'hui, mais il y avait des précurseurs. Et ces précurseurs-là, eh bien, on les avait sur le territoire. Et finalement, les regards croisés des uns et des autres ont amené les paludiers traditionnels à changer de position, de s'organiser contre des systèmes qu'on va dire classiques de vente de sel ou de rapport politique au territoire.
Pour partie de ces salines, elles étaient abandonnées pour des raisons économiques. Donc il y a peut-être eu conflit chez certains entre la remise en état des salines et une potentielle plus-value foncière.
Effectivement, ce que d'aucuns imaginaient, si les tracés de voirie étaient suivis, si les aménagements qui étaient envisagés, c'était une spéculation sur le foncier, qui est forcément une spéculation sur le coût de terre, parce qu'une fois que vous avez vendu et vous avez l'outil, vous perdez la jouissance du terrain lui-même, il est affecté à autre chose, et il perd de toute façon de sa valeur et de son intérêt pour le territoire. Et là, il y a des gens qui ont dit, ben non, on peut vivre décemment de ce territoire, il suffit de s'organiser. Et ça, c'est un peu le success story du sel de Guérande, mais qui s'inscrit dans la durée. Ça commence dans les années 70, la lutte d'abord pour préserver l'intégrité du territoire et ensuite la reconquête économique et la reconquête des salines qui avaient été abandonnées. Parce qu'en effet, dans les années 70, la population active était tombée autour de 150 paludiers exploitants, mais 150 paludiers dont une partie était également agriculteur ou pouvait être double actif. Ça veut dire que le paysage salicole de cette époque-là, le territoire salicole était mité à certains nombre de salines étaient abandonnées. Voilà, c'est toujours le cas. Mais ce qui s'est passé depuis la fin des années 70, c'est qu'il y a une reconquête du territoire et de son potentiel d'exploitation. La réussite de cette histoire du sel de Guérande, dans l'état où on l'observe, où on en est aujourd'hui, tient en effet à cette convergence de vision à un moment donné de l'histoire qui a failli basculer vers une disparition lente du marais salant, mais effective, vers une reconquête du territoire. Reconquête du territoire en surface exploitée et reconquête économique, voire positionnement économique du sel de Guérande. Il y a eu quelque chose de remarquable, on va dire un coup de génie qui a été judicieusement pensé, anticipé, appuyé de diverses manières, avec diverses compétences, mais qui a permis à ce territoire de se reconstruire une identité autour du sel, parce que le sel de Guérande fait vendre le territoire. Les exploitants y vivent beaucoup mieux qu'ils n'y vivaient autrefois, et il y a une nouvelle population qui était des intellectuels, des gauchos, mais on s'en fiche, c'est le travail qui a été fait et qui en reste. Et là, il y a un bel héritage pour la génération qui vient.
Situés entre terre et océan, les marais salants de Guérande font aujourd'hui face à une forte pression foncière compliquant l'installation des nouveaux paludiers, nouvelles paludières.
Aujourd'hui, il y a une concurrence entre des gens qui veulent vivre là à l'année, avec des revenus qui ne sont pas ceux qu'on peut avoir dans le tertiaire, par exemple, quand on travaille dans des entreprises importantes ou quoi. Et là, du coup, il y a une concurrence sur le marché de l'immobilier qu'il est difficile pour les personnes de trouver à se loger. Alors, les personnes qui veulent être paludiers, qui voudraient être pêcheurs, qui voudraient être, etc., c'est vrai à l'échelle de tous les gens qui veulent travailler à l'année sur le territoire. C'est encore plus problématique pour les paludiers, donc la capacité d'intervenir sur un accident météo, la pluie par exemple qui survient ou un orage, si vous habitez à 25 km de votre exploitation, c'est compliqué. Quand on habite à quelques centaines de mètres ou un kilomètre, c'est plus facile d'intervenir et d'avoir la réactivité rapide contre un événement qui pourrait ramener plus d'eau, compromettre l'optimisation de la production. Voilà. Donc là, effectivement, les paludiers ne sont plus les seuls sur le territoire. Il n'y a pas eu les logements espérés par d'aucuns, les immeubles qui auraient permis une surconsommation du littoral par une population résidente touristique. Mais n'empêche qu'il y a une concurrence de facto entre les retraités qui viennent vivre sur le territoire, mais pourquoi pas, bien entendu, et puis ceux qui veulent vivre à l'année de leur travail, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes revenus pour se loger décemment. Voilà, donc il faut aller plus loin, chercher où se loger.
Donc actuellement, si on veut trouver un logement, c'est compliqué.
Je pense que si on veut trouver un logement à bas, au croisic, au plien, c'est compliqué pour un couple jeune qui veut s'installer, clairement.
Les pratiques et le savoir-faire des paludiers paludières de Guérande ont été classés en 2023 à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de la convention de l'UNESCO.
C'est dire qu'en France, il y a là un savoir-faire qui se maintient, qui est exceptionnel, au même titre que les zingueurs qui travaillent sur les toits de Notre-Dame. Bon, ben voilà, on a des gens qui ont un savoir-faire unique en leur genre, qui travaillent avec la terre, qui travaillent avec l'eau, qui travaillent encore à la main. Et ben ça s'apprend et ça se transmet.
Ce sont des techniques ancestrales.
Des techniques ancestrales, mais constamment renouvelées parce que réappropriées par les gens qui viennent, y compris de l'extérieur, qui vont utiliser des matériaux de travail différents, du plastique plutôt que de l'acier ou quoi, mais voilà. Mais par contre, les gestes, eux, restent et permettent la pérennisation d'un territoire. C'est ça l'idée aussi du patrimoine culturel et matériel, c'est la durabilité d'activités humaines et économiques existantes.
Et c'est une des conséquences de la lutte des années 70. C'est dans la filiation.
C'est dans la filiation, c'est dans l'esprit de pérennisation positive de ce qui s'est construit ici au fil des décennies. La technologie des marais salants telle qu'on la connaît à Guérande a pu émerger il y a 2000 ans. Vous voyez, de la prudence de l'historien, il fouille pas le gars. Mais il y a des indices qui tendent à dire que le système technique des marais salants, évaporation solaire dans des bassins compartimentés, spécifiques, etc., a pu émerger entre le 1er et le 4e siècle de l'ère chrétienne. S'il n'y avait pas eu ce sursaut des années 70, en 2000, il en était quasi terminé. Peut-être une saline fossile relictuelle aurait pu être encore exploitée ici et là sur le bassin de Guérande, mais pas au taux où on connaît l'exploitation, où on a connu l'exploitation en 2000, où on le connaît aujourd'hui. Il y a eu des périodes de récession de l'activité salicole dans des cadres totalement différents. On a la preuve de disparition de salines au moment des guerres de 100 ans. Pourquoi ? Parce que l'argent, on ne la met pas dans la reconstruction de marais salants endommagés par les tempêtes, par exemple. On investit dans des bateaux de guerre, des choses comme ça, ceux qui ont les moyens, et on remet des salines en état que quand l'activité économique peut se faire dans un contexte pacifié. Et là, pour la région de Guérande, clairement, après la guerre des Cent Ans, c'est le XVIe siècle, et c'est l'époque, après les grandes découvertes, des investissements dans la pêche morutière et les retours. Eh bien, c'est dans la reconstruction de salines, voire l'expansion du bassin salicole de Guérande, l'extension du bassin salicole de Mesquer, Assérac et Saint-Mol. Voilà, il y a un contexte économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, après ça, des accidents climatiques en 1598-99. Allez, c'est presque des tsunamis, là. Les exploitants et les propriétaires sont dépassés par les dégâts intervenus entre le Pouliguen et ça y est. Et là, c'est un désastre. On a l'impression que 50% des salines ont disparu. Finalement, on a rebâti quand on en a eu progressivement les moyens, les propriétaires en ont les moyens. Voilà, on n'a pas le détail de tout, mais on sait que là, il y a eu des grosses tempêtes, il y en a eu, et on a toujours su rebâtir sur les talus démembrés, cassés, etc. Mais parce qu'il y avait un intérêt économique à le faire. Le jour où il n'y a plus d'intérêt économique, effectivement, c'est artificiel. Donc, il faut que la production de sel permettent à des exploitants de vivre décemment de la vente de leurs produits.
Une interview de Gilles Daburon par Michel Sourget pour Alternante FM.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.